Merci. On revient sur Maaseh v'Nishma. Agmara dans Shabbat, Pechet, elle dit, Beshash et Igdimu Israël, Maaseh v'Nishma, quand les Bnei Israël ont dit d'abord Maaseh, puis ensuite Nishma, d'abord ils ont dit on va faire, puis on va entendre, écouter. Yatzta bat kol, il est sorti une voix, Ve'amra, et qui a dit, Mi gila le banai, qui est-ce qui a dévoilé à mes enfants ce secret dont les anges de service font usage? Voilà, c'est marqué au sujet de ces anges de service, Ose dvaro, lishmoa bekol dvaro. Ose dvaro, ils font la volonté d'Hachem, lishmoa pour entendre la voix de sa parole, de la parole divine. Donc ils font pour entendre. Bereisha ose, ve'adar lishmoa. D'abord faire et ensuite entendre. On voit dans la Gemara que le niveau, ce haut niveau de Maaseh v'Nishma, est un niveau qui correspond au niveau des malachim, au niveau des anges. Et les Bnei Israël se sont élevés à ce moment-là à un niveau tel que on a dévoilé, ou les anges, bah qui, Hachem demande, mais qui leur a dévoilé ça? Ce secret a été dévoilé au Bnei Israël. Ce secret dont les anges font usage. Il faut comprendre un peu de quoi il s'agit, évidemment. Les anges, quand Moshe Rabbeinu était à Shamaïm pour recevoir la Torah, les anges ont interrogé en quelque sorte Hachem. Ils ont critiqué, ils ont dit « Ma le ilu disha benenu, ma enosh ki tizkrenu. » Qu'est-ce que celui qui est né d'une femme fait parmi nous? Et qu'est-ce que l'homme, pour que tu t'en soucies? Et avec ça, il voulait disqualifier Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas à sa place, il était parmi les anges. Les anges ont dit, il n'a rien à faire parmi nous, bonsoir. Moshe a gagné contre eux. Il a argumenté avec les anges en question et il leur a dit, dans cette Torah que vous ne voulez pas que je prenne, il est écrit « Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha Meretz Mitzrayim » Hashem se présente comme celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Il leur a dit « Le Mitzrayim Yeradtem, le Paro Nishtabattem » C'est-à-dire, vous êtes descendu en Égypte, vous avez été esclaves de Paro, vous les anges, la Torah ne vous concerne pas. Hashem se présente à ceux auquel la Torah parle, en prenant comme référence l'Égypte. Ça ne vous concerne visiblement pas. Torah, la malachem. La Torah, à quoi elle peut vous servir? Kina yesh benechem, yetzerara yesh benechem. Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a du yetzerara, penchant à faire le mal parmi vous? Miyad Hodou, ils ont été modés, ils ont dû reconnaître effectivement, nous ne sommes pas concernés par la Torah. Donc on voit que mon cher Rabbeinu a montré que Kabbalat à Torah, ça ne concerne que les Bnei Israël. Et par conséquent, c'est un peu difficile de comprendre comment les Bnei Israël sont fiers, en quelque sorte, que leur Kabbalat à Torah se fasse sur le modèle des anges. Mais chez les anges, la notion de Kabbalat à Torah n'a pas de sens. Donc comment est-ce que la façon de faire des anges peut servir comme modèle, comme idéal, en quelque sorte, de la Kabbalat à Torah, de la réception de la Torah pour les hommes? On voit que les Bnei Israël ont plus à voir avec la Torah que les Malachim, que les anges. Et est-ce que ce qui est dit des anges là, c'est une notion de Kabbalah? Est-ce qu'il y a une réception de la part des Malachim? Donc on parle du secret dont ils font usage. Donc ce serait une Kabbalat à Torah plus haute que celle des hommes si on n'avait pas dévoilé aux hommes ce que les anges font pour qu'ils le copient. Alors le problème de Volozhner dans le Nefesh HaChaim, il explique, il dit que la différence entre ce qui est dévoilé et ce qui ne l'est pas, et ce qui est caché dans la Torah, c'est, dit-il, si on résume, il dit comme ça, où le zot afhi à Torah, afhi, la Torah elle-même, derech yiridata vishtal shluta, mi madrega le madrega, ou meolam le olam, tzimtzema atzma leitlabesh, bechol olam, לדבר מענייני אותו העולם, כדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה. אמנם, תקופה, אם שהיא מדברת בתחתונים, רומזת היא בהם גופי תורה ועניינים פנימיים, ופנימיים לפנימיים, גבוה מעל גבוה, לאין תכלית, ולכן שגורה בפי הזוהר דאורייתא כולה יהי סתים וגליה שהוא מבואר לכל מבין שפירושו הוא שהוא הדרך הנסתר מהתורה הקדושה דונק שאינו כתוב מפורש ומבואר בה אלא שנסתר ונתמן העניינים אלו ברמז בדבריה ודרך הנגלה שבה הוא הפשוטו של המקרא שהוא כתוב מפורש ומבואר בה. Abraham de Volozhin explique, il dit, la Torah, il faut imaginer les choses de la manière suivante, il faut essayer de se représenter les choses de la manière suivante. La Torah, c'est le plan qu'Hachem a inventé d'après lequel il a créé le monde. Donc la Torah, elle existe bien avant le monde. Elle existe dans un état dont nous n'avons absolument aucune idée. Certains disent que la Torah tout entière, c'est les noms divins. Ce sont des noms divins. Donc la Torah, c'est une certaine entité qui provient d'Hachem. Et cette Torah, lorsqu'elle descend dans le monde, elle descend, elle passe tous les niveaux Parce que les mondes, il y a des mondes successifs par lesquels il faut passer pour, jusqu'à ce qu'on arrive dans notre monde. Il y a le monde de l'émanation, le monde de la Bria, enfin Atzilut, Bria, Yetzira, et enfin Asiya. Nous sommes dans le monde de l'action, dans le monde du faire, et Fahi donc. Et bien pour arriver à ce monde-là, il faut passer par une suite de mondes intermédiaires et même des niveaux intermédiaires. Et la Torah, elle doit descendre à chaque niveau. Et à chaque niveau, la Torah se revêt en quelque sorte. Elle prend un habit adéquat pour ce monde-là. C'est-à-dire, elle dit les choses dans le langage, si on peut parler d'un langage, dans le langage adéquat de ce monde-là. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre monde et qu'elle dise les choses dans le langage adéquat pour notre monde. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça s'est dit dans le langage ? C'est la Torah, c'est quelque chose qui vient donc de très haut, donc qui est, si vous voulez, extrêmement, si je veux prendre une image, c'est beaucoup trop lumineux pour que telle quelle elle puisse être dans ce monde-ci. Donc il va falloir passer à travers toutes sortes de niveaux qui vont enlever de cette luminosité, de cette... Si vous voulez, c'est comme... je donne toujours cet exemple-là, c'est... Vous ne pouvez pas avoir dans les prises que nous avons dans nos maisons, on ne peut pas avoir l'électricité telle qu'elle se transporte à 400 000 volts ou je ne sais pas, ou 500 000 volts. Il faut bien qu'on passe successivement par des transformateurs, par des processus qui vont réduire le niveau, le voltage, si vous voulez, jusqu'à ce que on descende ça successivement à des niveaux acceptables pour que ça soit dans les 220 ou dans les 115, 127 ou 380 volts. Un niveau qui est adéquat pour ce que nous avons, nous, ici, dans nos maisons. On ne peut pas brancher nos appareils sur du 400 000 volts. Et on ne pourrait pas le supporter parce que ça prendrait feu, c'est tout. Donc il faut des systèmes de dégradation, si on peut parler comme ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dégradées pour qu'on puisse le prendre, pour qu'on puisse s'en saisir, pour qu'on puisse l'utiliser. Donc ici, la Torah, elle prend des vêtements successifs qui lui permettent de ne pas mettre le feu partout où elle passe, en quelque sorte. Parce qu'elle serait beaucoup trop chaude, beaucoup trop, au sens d'une température beaucoup trop grande, beaucoup trop d'énergie, etc. Il faut atténuer tout ça. Il faut donc mettre des couches successives de vêtements, de protection du monde, en fait, pour que la Torah soit audible, nous soit audible à nous. C'est-à-dire pour que le monde puisse supporter la Kdusha et la lumière de cette Torah. Alors, bien entendu, cette Torah, bien qu'elle parle un langage audible par les créatures de ce monde, néanmoins, elle reste, avec sa richesse, sous forme allusive, c'est-à-dire que d'une certaine manière, dans cette Torah qui parle un langage qu'on connaît, qu'on comprend, il y a aussi dans cette Torah, de façon, par exemple, allusive, il y a des choses qui nous disent l'intériorité des choses, l'intériorité de l'intériorité, c'est-à-dire infiniment des sens et des sens supplémentaires. Ils sont toujours plus profonds, toujours plus élevés. Et c'est ce que il dit, c'est pour ça que le Zohar utilise très souvent cette expression, qui dit que la Torah, elle est tout entière, d'une part complètement cachée, complètement inaccessible, quoi, si vous voulez. Et d'un autre côté, elle est dévoilée. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire ça, que, voilà, c'est... Il existe un derrière qu'on appelle Nistar, le côté caché dans la Torah, qui n'est pas explicité dans la Torah, mais qui y est caché, qui est enfoui dans la Torah. C'est-à-dire, de façon allusive, de façon peut-être par des valeurs numériques, par d'accord, de façon de correspondance de valeurs numériques, ou correspondance de lettres, de formes de lettres, de toutes sortes de choses. Et d'un autre côté, il y a une lecture obvie quasiment du texte, tel qu'il est écrit et tel qu'il est explicité. En d'autres termes, il y a plusieurs lectures de la Torah. Déjà dans la Gemara, on voit qu'il y a des lectures différentes de la Torah. Différentes, c'est-à-dire des lectures différentes de la lecture qui est la nôtre quand on lit la Torah le Shabbat matin à la Shoul, par exemple. On lit d'une certaine manière. On lit parce que on a une Kabbalah concernant, on a une tradition qui nous dit fabriquer des versets, puisque le texte de la Torah, il n'y a pas de versets dans la Torah. D'accord, il n'y a pas de point et de virgule. Donc c'est un continu. De temps en temps, il y a des paragraphes, ben, la ligne ou bien l'espace blanc, des formes de paragraphes. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il y a pas de. Donc on ne sait pas où il faut arrêter les versets. Alors nous, on a une tradition qui nous dit comment on arrête les versets. Il nous dit même d'ailleurs comment on chante les versets. La cantillation est une chose très importante. C'est pas du tout anecdotique, c'est fondamental. Qui est une façon aussi de découper les versets. Grâce à la cantillation, on met ensemble certains mots, on met certains mots en exergue. On s'arrête longuement sur un certain mot, on met des accents toniques ici ou là, qui changent le sens, etc. Et puis dans la Gemara, par exemple, on l'a souvent vu, que la Gemara, elle redécoupe les versets. Elle découpe le verset autrement que nous ne les lisons. Donc tous ces découpages donnent des sens différents de la Torah, des sens supplémentaires, il y a un enrichissement. C'est juste pour donner une idée de ce que la possibilité qu'on a de lire la Torah de multiples façons. On voit en tout cas du Nefesh HaChaim ici que Niglé, ce qui est dévoilé, c'est la partie de la Torah, ou c'est, si vous voulez, oui, la partie de la Torah qui appartient au monde de l'action, au monde, à notre monde, le monde du faire, où on doit faire les choses. Et donc, de ce point de vue-là, les paroles de la Torah s'entendent en fonction de des notions de ce monde-ci. Par contre, dans le Nistar, dans ce qui s'appelle caché, ça fait référence à la parole elle-même dans sa kedusha, dans sa racine, en fait, avant que la Torah ait pris le vêtement qui est le vêtement obligatoirement adéquat à ce monde-ci. Donc on parle de choses qui parlent de choses qui sont bien plus éthérées, etc. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont un vêtement de la lumière de la Torah. Il y a la lumière de la Torah et puis il y a les vêtements qu'elle met pour être audible, pour qu'elle puisse être entendue ici, dans ce monde, par nous. Dans le monde de façon courante.
Vous pourriez expliquer comment ce message qui concerne le monde de l'action et qui est donc la Torah telle qu'elle nous est connue, comment nous pouvons...
Comment quoi message, comment, comment
peuvent, comment les sages peuvent avoir la clé, entre guillemets, pour remonter à des niveaux plus éthérés qui ne font pas partie du monde de l'action. De toute façon, eux aussi font partie du monde de l'action, les sages. Donc, comment peut-on se sortir de cette gangue-là et arriver à des niveaux supérieurs de compréhension qui ne feraient en fait, quelque part pas partie de notre monde?
C'est ça. C'est ces niveaux de compréhension, ils sont... Vous voyez, par exemple, prenons les choses à l'envers. En poésie, vous pouvez très bien écrire des choses, utiliser les mots habituels, mais on peut les agencer, on peut les grouper d'une façon différente, on peut et leur faire dire d'autres choses que ce qu'ils disent d'ordinaire. Donc, ça veut dire, les hommes peuvent dépasser. Par la poésie, on peut tout à fait dépasser. Par le rêve, on peut dans le rêve, dans l'imaginaire, on peut très bien sortir de ce monde immédiat. Alors maintenant, c'est un problème d'inspiration. C'est-à-dire que tous les coups ne sont pas permis, bien entendu. Mais beaucoup de choses sont permises, qui sont de l'ordre de l'imagination, mais inspirée. C'est-à-dire c'est une imagination, mais qui est par exemple, quand ils disent quelque chose, eh bien c'est immédiatement discuté. D'accord, c'est contredit, etc., objecté, on objecte, etc., jusqu'à ce que la chose tienne debout. Et lorsqu'elle tient debout, alors, voilà, ils ont trouvé quelque chose, de nouveau, quelque chose qui n'était pas dans le texte, des choses qui sont aussi, qui font référence à, si vous voulez, à l'intériorité du monde. C'est-à-dire que nous, on voit les choses qui se déroulent et on explique. On essaie d'expliquer les choses d'une autre manière, en fonction de ce qu'on connaît. Mais évidemment, il y a d'autres déterminants dans le monde que ceux qu'on utilise d'habitude. Il y a des causalités différentes, même si des causalités... Par exemple, nous, on peut très bien dire, telle et telle maladie, par exemple, la cause de cette maladie-là, c'est un virus, etc. Maintenant, dans la Torah, on peut très bien dire, oui, mais la cause de cette maladie-là, c'est le virus n'est que... c'est pas la cause. La cause de la maladie, c'est autre chose. La cause de la maladie, ça peut être c'est que cette maladie, elle est peut-être porteuse d'un message pour celui auquel elle s'adresse. C'est aussi un message, d'ailleurs, très souvent, c'est un message du corps. Que certains médecins entendent le message du corps. Le corps, il réagit de cette manière-là, ça veut dire... qu'il te dit je souffre de telle et telle manière, donc va regarder pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je te fais de la fièvre, etc. C'est révélateur de quelque chose. Eh bien, on peut aussi, nous on a d'autres clés de lecture, si vous voulez, qui viennent de l'inspiration, qui viennent de traditions orales, qui nous disent comment on lit, comment on interprète certaines choses. Ça veut dire ça. Ça veut dire que il faut entendre, dans ce texte, eh bien, il faut entendre une autre intervention que celle qui est décrite. Le grand exemple que tout le monde connaît, c'est Megillat Esther. D'accord ? Où, quand nous lisons, nous, Megillat Esther, on voit l'intervention divine. Mais si vous lisez ce qui est vraiment écrit, il n'y a pas l'intervention divine. Le nom d'Hachem n'est pas mentionné. Bon, il y a le roi. Le roi Achashverosh, le roi, etc. Eh bien, on sait bien qu'il ne faut pas lire comme ça. Il faut bien lire. On ne va pas lire le texte tel qu'il se donne à lire. Parce que sinon, ce serait une histoire complètement immanente, c'est une histoire une bagarre entre deux clans. D'accord ? Et là, on a réussi à mettre une femme au bon endroit et il a gagné. Alors nous, on ne va pas le lire comme ça. Mais pourquoi on ne le lit pas comme ça ? Pourquoi on le lit pas ? On a une tradition qui nous dit que tout ce qui est en train d'arriver, ça dépend d'une conduite d'Ebné Israël lors d'un festin, etc. On va entrer dans ces histoires-là. Et puis on va lire de ce fait complètement différemment. Et maintenant, on va lire aussi comme... Qu'est-ce qui fait que, comme pourquoi on s'en est sorti, pourquoi ça a marché? C'est pas simplement que la reine elle a séduit le roi. Alors, ce qui pourrait être une façon de dire, voilà, elle a su lui parler, et il a été sensible à ce qu'elle racontait.
Il me semblait qu'on ne parlait pas là ici de ce type de message.
Non, je vous parle de messages tels que nous on les connaît. Alors maintenant, il y a d'autres messages qui sont plus intérieurs encore, mais qui fonctionnent, si vous voulez, de la même manière qu'il y a ces messages-là qui sont pas, qui correspondent pas au texte tel qu'il est. Petit à petit, on peut remonter. Et alors nous, on remonte plus ou moins, quoi.
Et là vous parlez plus de Mara, mais vous parlez plus...
Non, je parle de Kabbalah ou de choses comme ça. Le Midrash, vous voyez bien ce que fait le Midrash du texte.
Et ce que je ne comprends pas, là, c'est, puisque au final, si on le sait, c'est que c'est dévoilé, alors pourquoi à l'origine, c'est pas dans un langage simple
Parce qu'on ne veut pas que ça soit à la portée de tout le monde.
Ouais, mais au final, ça l'est.
Non.
Bah non, mais pas les grands secrets, mais les c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la lecture simple, qui ne sont pas compréhensibles. Et les sages nous dévoilent.
Oui. Parce que tout ça, c'est dans l'ordre. Tout ça, c'est de l'ordre du dévoilé. Tout ce que tu connais, final, c'est de l'ordre du dévoilé.
Au final, le dévoilé ne se superpose pas avec, enfin, n'est pas égal à la partie stable, quoi, enfin, la partie accessible.
Non, bien sûr que non. La partie accessible est comme ça. Le dévoilé, il est comme la table. On en dévoile beaucoup plus. Mais maintenant, il y a encore beaucoup plus que ça. Il y a des dimensions complètes qui échappent à ce qu'on nous on connaît. Et qui sont des choses que certains maîtres ont développées.
Et puisqu'on le connaît, pourquoi ça n'a pas été donné de manière...
Mais justement, ça n'a pas été donné pour qu'on... Ça a été donné justement pour qu'on ne comprenne pas. Les Agadot, pourquoi les Agadot de la Gemara? Elles sont souvent, ça a l'air trivial, etc. Pour que les gens qui s'imaginent, qui comprennent tout, et ah oui, ça c'est pas intéressant, passe.
Oui, mais le peu qu'on comprend, parce qu'apparemment c'est quand même, on comprend qu'une minorité, hein, pourquoi ça n'a pas été donné de manière claire?
C'est donné, ça dépend. Ça a été donné pour, au fur et à mesure de... Il y a ce qui est accessible aux gens qui lisent simplement, il y a les gens qui réfléchissent un peu plus. Au fur et à mesure que les gens réfléchissent plus, eh bien, ça leur a été donné.
Est-ce qu'il n'y a pas de limite Est-ce qu'il n'y a pas de limite à l'interprétation
Les limites de l'interprétation, c'est les limites qu'il faut, d'une certaine manière, pas arriver à interpréter des choses qui tombent dans le domaine de l'interdit. Pardon, qui deviendrait une interprétation idolâtre, par exemple. Une interprétation qui expliquerait les choses avec un dualisme ou des choses comme ça. Ça, c'est une limite.
Est-ce que la limite, ce n'est pas ce que vous avez déjà dit à plusieurs reprises, c'est d'essayer d'expliciter ou de rentrer, d'expliquer l'essence de la chaîne?
Ça on peut rien en dire du tout. C'est la limite, c'est ça, c'est bon, ça c'est parce que Mais même dans, il y a aussi une limite sur, dans l'interprétation. Bon, on pouvait dire, effectivement, dès le moment où tu t'imagines qu'avec ton interprétation, tu vas nous faire de la théologie, enfin, la théologie, on peut faire, mais sur Théos, c'est pas sur Hachem. Mais si tu te mets à parler d'Hachem lui-même, bon, ben, t'es à côté de la plaque, c'est déjà, ça c'est clair. Alors, on voit donc, d'après le Nefesh HaChayim, que la façon, le derer, pour dévoiler la réalité fondamentale de la Torah, eh bien, c'est en travaillant la Torah, en faisant des efforts, en utilisant les moyens qu'on connaît pour acquérir la Torah. D'accord ? Pour ces moyens d'acquérir la Torah, c'est les moyens qui permettent de briser justement les voiles qui nous séparent, qui font que les choses sont cachées, quoi. Les choses qui sont cachées, elles sont cachées derrière des voiles, ou des écrans, si vous voulez. Mais il faut, le travail, c'est d'acquérir des moyens de briser ces écrans, d'aller derrière l'écran en question. Et à ce moment-là, effectivement, la lumière va advenir, elle va arriver au jour, cette lumière. Elle était bloquée par des écrans. Si je sais casser les écrans, j'aurai accès à cette lumière. Cette lumière va se déverser. Ces deux choses-là, en fait, ça correspond à la Torah d'une part et aux mitzvot d'autre part. Parce qu'en fait, il y a un aspect de la Torah qui a à voir avec notre situation dans notre monde. C'est-à-dire que la Torah, elle nous donne des ordres, elle nous indique le chemin que nous avons à prendre. Et même les récits qui sont dans la Torah sont à percevoir de cette manière-là, comme étant dévoilement de chemin à emprunter. On nous dit, voilà, ce récit-là, c'est le récit qui décrit un chemin qui est à emprunter. C'est un bon ou un mauvais chemin, selon ce que le récit, comment il va être évalué dans la Torah. Et donc, tout le inyan qui est qu'on doit l'ilmod almenat la'asot, étudier en vue de faire. Ça c'est, si vous voulez, vraiment l'étude de la Torah, dans la mesure où la Torah se rapporte à notre monde, au monde de l'action, puisque j'étudie pour savoir comment faire. J'étudie avec l'intention de mettre en pratique ce que j'ai étudié, puisque dans cette étude, je sais dès lors comment faire, comment procéder. Donc ça a à voir avec le Olam HaAsiya, dans le monde de l'action. Ça c'est la partie dévoilée de la Torah. Mais dans sa forme initiale, plus proche de la racine, en quelque sorte, de la Torah, qui est sa forme de lumière du monde d'en haut, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout d'expression de cette Torah dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce que nous disons quand nous disons que toute la Torah, ce sont des noms divins. Ce que le Ramban dit au début de son commentaire sur la Torah, c'est-à-dire, on dit le Olam, c'est comme son passage qui dit le Olam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim, c'est-à-dire Hashem, on dit ta parole, elle est pour l'éternité, elle se situe dans le ciel, c'est-à-dire cachée, elle n'est pas descendue sur terre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, derrière toutes ces paroles qui en fait expriment des mitzvot, derrière tous ces récits qui eux aussi dévoilent des chemins à emprunter, il y a la Torah telle qu'elle est au ciel, si vous préférez, telle qu'elle est dans sa version non dévoilée, en fait. C'est le côté Nista. Il y a une question que posent les Rishonim, qui est une question très connue. Ils demandent pourquoi est-ce que le salaire des mitzvot n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi la Torah ne dit pas, si tu fais cette mitzvah-là, alors la récompense dans ce monde-ci, c'est telle et telle chose. Alors il y a une réponse de Rav Aaron Kotler à ce sujet-là, qui dit qu'en vérité, c'est écrit dans la Torah. Sauf que tout ce qui est caché dans la création est également caché dans la Torah. Et puisque la Torah est le plan de la création, et donc de la même manière que dans la création, quelque chose se dévoile, de la même manière, il se dévoile aussi dans la Torah. Et puisque le salaire des mitzvot dans ce monde-ci, il n'y en a pas, donc il aurait fallu, si on voulait dire le salaire, il faudrait dévoiler le salaire dans le monde du salaire, dans le monde à venir, dans l'amaba. Et donc, comme le Olam Haba n'est pas dans ce monde-ci, si vous préférez. De la même manière, dans la Torah, ce qui concerne le Olam Haba, n'est pas non plus dans la Torah hein, lisible immédiatement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la Torah, sous la forme d'absence. Puisque dans la Torah, il y a aussi, la Torah n'est pas seulement le plan du monde, mais c'est aussi le plan de ce qui ne s'est pas dévoilé, le plan de l'autre monde, mais c'est aussi le plan de l'autre monde, du monde du salaire. Parce que la Torah, c'est le plan de tout, de toute la création. Et de même que Hachem a créé un monde, c'est qu'on appelle Olam Haba, dans lequel... C'est un monde qui ne s'inscrit pas dans ce monde-ci. Donc, qui est d'une certaine manière, par rapport à ce monde-ci, il est non dévoilé. Olam Haba. Eh bien, la Torah, cette qualité de non dévoilé, elle doit se retrouver dans la Torah. Puisque la Torah est le plan du monde. Donc, il faut que, quelque part, dans la Torah, il y ait du non dévoilé. Qui correspond au non dévoilé de la création. Donc, Rabbi Ankota disait. C'est écrit dans la Torah sous forme d'absence. Il faut comprendre, c'est dans la Torah, comme tout, mais c'est caché dans la Torah, mais ça ne peut pas être dévoilé dans la Torah, puisque ce n'est pas dévoilé dans le monde, dans le créé. Puisqu'il y a correspondance complète. Toute chose qui existe dans ce monde existe de façon dévoilée dans la Torah. Chose qui existe dans le monde, mais non dévoilée, et non dévoilée dans la Torah. Non dévoilée, ça veut dire, c'est dans la Torah, mais c'est pas lisible comme ça, à livre ouvert. C'est accessible à la Torah, accessible à l'étude, en faisant des efforts, en travaillant, le Hama à la Torah va permettre de dévoiler ça. C'est-à-dire de travailler le texte jusque encore et encore, sans fin, parce que c'est comme ça qu'on accède on a une façon d'accéder à quelque chose qui reste toujours non dévoilé, parce qu'on n'arrive jamais au bout des choses. On peut jamais dire voilà, je suis arrivé. Je maîtrise complètement les choses. C'est typique d'une réponse de Rabbi Aaron Kotler, parce que quelqu'un un jour a dit devant Rabbi Aaron Kotler, Rabbi Aaron Kotler c'est celui qui a fabriqué l'Ikvoud, la plus grande yeshiva du monde, c'est lui qui l'a faite. Il a aussi fait beaucoup d'autres choses. Et quelqu'un lui a dit, je prie, c'est marqué que quand on prie, quand je vous réponds. Je prie, il ne répond pas. Hachem ne répond pas. Alors Abraham a dit non, il a répondu à ce que tu demandes. Il a répondu non. C'est, comment il répond non? Il ne répond pas. Toi, tu attendais qu'il y ait une réponse, ben voilà, la réponse, elle n'est pas. Ça veut dire non, ce que tu demandes, je ne te le donne pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu demandes. Alors, cette idée, il y a des réponses qui sont sous forme d'absence, en quelque sorte. La non-réponse est une réponse. Et de la même manière, ici, le fait de ne pas figurer explicitement dans la Torah, c'est une façon de figurer dans la Torah. Mais sous le mode caché. C'est parce qu'il faut lire la Torah comme le monde, comme de la même manière que dans notre monde, dans le monde, il y a un monde visible et un monde caché. Dans la Torah, il y a aussi une partie visible et une partie cachée. Et de même que la partie cachée, elle est cachée dans le monde, de cette manière-là. Mais on peut essayer de la dévoiler, on peut essayer d'accéder à la partie cachée. On peut éventuellement avoir un peu d'information, mais c'est pas on peut sûrement pas y arriver complètement. La Gemara dit le salaire des il y a un niveau de salaire pour certaines choses. C'est marqué Ain lo ra ata Elokim zulatecha. Aucun œil ne l'a jamais vu sauf Elokim. C'est-à-dire que il n'y a qu'Hachem qui connaisse ces choses-là. Par exemple, il y a des choses qui sont pas connaissables. Dans la Torah elle-même nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas connaissables, qui ne sont connaissables que par Hachem. Par exemple, quand les Bnei Israël et les Égyptiens traversent la mer, enfin se trouvent dans la mer, les anges disent à Hachem qui est en train de sauver les Bnei Israël et qui noie les Égyptiens, il dit mais Allou Avdi Avodazara et Allou Avdi Avodazara, ceux-là sont idolâtres et ceux-là aussi sont idolâtres. Il y a une injustice flagrante. Pourquoi tu sauves ceux-là et tu ne sauves pas ceux-là? Ils sont tous les deux idolâtres. Ça veut dire que même pour des anges, la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens n'était pas visible. Même au niveau des anges. Ça veut dire qu'il n'y a aucun niveau dans la création qui pouvait voir la différence. Mais Hachem dit qu'il y a une différence. Alors, la différence, elle existe maintenant. Elle va se dévoiler plus tard, mais elle existe déjà maintenant. On est obligé de dire ça. Parce qu'Hachem dit, il répond aux anges, il dit, mais ceux-là, ils vont accepter la Torah. Et ceux-là, les goyim, ils ne vont pas accepter la Torah. Donc, je les sauve, ceux-là. Mais ça, c'est pas une... Tel quel, on ne peut pas l'entendre, cette réponse. C'est pas parce que on n'est jamais jugé en tenant compte du futur. On est jugé sur ce qu'on est à ce moment-là. C'est un principe. On est jugé comme Ishmaël a été jugé, Bacher ou Cham, tel qu'on est à l'instant du jugement. Hachem ne tient pas compte de ce qu'il sait, évidemment, tout ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire, entre autres, par exemple, que si quelqu'un est sincère aujourd'hui, le jour du jugement, il est sincère. Il veut faire tchouba. Et c'est sincère. En vérité, il va se casser la figure plus tard. Hachem sait très bien qu'il va se casser la figure. On n'en tient pas compte. Il est jugé sur sa sincérité. Il est jugé tel qu'il est au moment du jugement. Ça a été la réponse qu'Hachem a donnée, vous savez bien, lorsque Hachem a sauvé Ishmaël, lorsqu'il était avec sa mère et qu'il était en train de mourir, Hachem l'a sauvé. Il a fait en sorte que sa mère voit une source. Donc elle est allée puiser de l'eau et il a été sauvé. C'est marqué que les anges à ce moment-là, ils ont crié au scandale. Ils ont dit à Hachem, tu es en train de sauver Ishmaël, alors que les descendants d'Ishmaël, ils vont faire souffrir tes enfants. Hachem a répondu, mais qu'est-ce qu'il est maintenant cet enfant? C'est un tzaddik? Ok, il est jugé comme tzaddik. Ah, et on sait que demain, il sera un rachat? On n'en tient pas compte. Alors, de la même manière, qu'est-ce que ça veut dire, ils vont accepter demain, ils vont accepter la Torah? Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on les juge. C'est aujourd'hui qu'on les sauve. Ça veut dire qu'Hachem, quand il dit, ils vont accepter la Torah, ça veut dire, je vois, moi, qu'il y a déjà chez eux une différence qui fait aujourd'hui déjà, qui fait la différence entre eux et les Égyptiens. Il y a quelque chose de suffisamment positif qui a peut-être besoin encore de grandir pour s'exprimer sous la forme on accepte la Torah, c'est ce dont nous parlons maintenant, d'accord ? Alors que les Omotaolam diront non, mais la Torah n'en veut pas. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà quelque chose de visible. Mais pourtant, même les anges n'y voient rien. Vous comprenez ? Il y a des niveaux où dans tout ce qui est dans notre monde, c'est-à-dire le monde de la création, y compris le monde des anges, ils font aussi partie du monde de la création, les anges. Ils sont aussi créés. Ils ne sont pas... La Torah ne s'adresse pas à eux parce qu'ils n'ont pas de... comme vous n'étiez pas en Égypte, etc. Donc la Torah ne s'adresse pas à eux comme... Le monde des mitzvot, en tout cas, ne s'adresse pas à eux. Mais, ils sont des créatures, et à un certain niveau, même pour eux, certaines choses sont cachées. Alors ça, personne ne peut le... Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha. C'est-à-dire, personne ne peut le voir, sauf le salaire de certains comportements conformes à la Torah.
C'était quoi le... Parce qu'ils étaient à un niveau de tourba de 50, les Égyptiens, et nous 49.
Ouais, on ne peut pas travailler, c'est possible que ça n'existe pas le 50 de Touma. Certains, c'est une grande discussion si ça existe ou pas. En tout cas, les anges ne voient pas la différence. Même si tu dis 50, donc ça veut dire eux, ils ne sont pas sensibles à 49-50, la distinction entre 49 et 50. Et Hachem, disons, dans ton langage, ça veut dire qu'Hachem, il s'aperçoit qu'il y a 50. Et 49, ce n'est pas 50. Donc, on avait vu cette réponse que donne Simon Rabban Kotler à la question de savoir pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah, le Srar des Mitzvot n'est pas écrit dans la Torah. Donc, cette réponse-là correspond à ce qu'on a dit précédemment. C'est clair que toute la réalité, tout ce qui existe, n'existe que parce que ça existe d'abord dans la Torah. Mais tout ce qui est dévoilable dans ce monde-ci est dévoilé à une expression dans la Torah, une expression dévoilée dans la Torah. Mais les choses qui sont cachées dans la nature, dans la création, elles font partie de ce qu'on appelle la lumière elle-même. Et dans la Torah, elles sont aussi cachées. Puis il donne un exemple. Dans la mitzvah de mettre les tefilines, la mitzvah elle-même, c'est de mettre les tefilines sur son bras et sur la tête. C'est-à-dire de mettre sur ce qui s'appelle Yad et ce qui s'appelle Roche, sur la main, le bras, et ce qui s'appelle la tête. Dans le monde d'en haut, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Yad et qui s'appelle Roche. Dans la représentation, dans une une forme de représentation du monde d'en haut. Et bien entendu, à ce niveau-là, il ne s'agit pas d'accomplir une mitzvah. C'est quelque chose, donc, par rapport à ce qui se joue là-haut, quand on met les tefillin, il y a une correspondance, effectivement, c'est en fait entrer dans un certain niveau dans le monde d'en haut. Et donc, l'intériorité de la mitzvah, donc la kavana, l'intention qu'on met dans la... ça n'a rien à voir avec l'accomplissement de la mitzvah. La mitzvah, il y a certaines kavanot qui sont... ça vient en plus de l'accomplissement. Le maaseh à mitzvah, le geste de la mitzvah de tefillin, c'est il faut faire ce qu'il faut pour s'être acquitté. Il faut mettre les tefillin sur son bras, il y a des règles, la tête, etc. Mais en plus de l'obligation qu'on a à mettre les tefillin sur son corps, dans l'homme, l'homme a une correspondance, si vous préférez, dans le monde d'en haut. Cette correspondance dans le monde d'en haut, c'est aussi une forme humaine, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que grâce à cette mitzvah, on va élever la main et le bras et la tête matérielle, en fait, au niveau qui s'appelle Yad et Roche dans le monde d'en haut. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie de l'accomplissement de la mitzvah, de cet accomplissement tout à fait matériel, mais il y a plus que ça, grâce à cette mitzvah qu'on fait, on se relie à une réalité dans le monde d'en haut qui s'appelle le sod des tefillin, le secret des tefillin. Et ça fait partie des secrets, enfin des choses cachées de la Torah. Donc, la mitzvah concrète, elle se fait dans le cadre du monde d'en bas, c'est-à-dire elle est dévoilée. Et donc, on comprend bien qu'il y a aussi un degré Torah dans la Torah qui n'est pas le degré mitzvah. C'est-à-dire où on s'occupe pas, où on n'entend pas la Torah comme venant nous dire ce qu'il faut faire, ou la façon dont on doit le faire, le chemin qu'il faut emprunter, mais qui est une façon de se relier à quelque chose de spirituel. Si vous voulez, on peut dire, c'est quelque chose qui est caché, qui reste complètement caché. Comment est-ce qu'on est relié et quel impact ça a? C'est complètement caché par rapport à ce qui se joue dans notre monde. Et c'est le niveau Torah, en fait, qui est en réalité une réalité lumineuse, quoi. C'est comme si, voilà, on agit au niveau des énergies, si vous préférez. Par exemple, si vous voulez donner un exemple, d'accord, il y a le monde des énergies, et puis... en agissant matériellement, en mettant des tefillin sur un corps concret, une tête, un bras, on agit aussi au niveau des énergies du monde, si vous préférez de prendre ce langage-là. D'accord. Il y a un agencement des énergies du monde, et on agit sur cet agencement des énergies du monde, on fortifie l'une ou on diminue l'autre, etc., ou on fait circuler les choses. Alors, si ça circule dans le monde d'en haut, ça va avoir un impact dans le monde d'en bas, parce qu'il y aura plus d'énergie dans le monde d'en haut. Alors ça, c'est le paradoxe. Ce sont les hommes, avec leurs actions, qui donnent de la force, en fait, qui amplifient, qui gèrent le monde des énergies. Par exemple, si je continue dans mon image... le monde des énergies d'en haut. Parce que je vous ai souvent rapporté ce rapprochement de Vologine, qui lit que « Da malemala mimcha ». Sache que tout ce qui se passe en haut, ça dépend de toi. Nous, on a l'impression que les choses qui se passent en haut, elles se passent en haut, elles ne dépendent pas de nous. D'accord. Et cet enseignement de Pirkei Avot qui dit Da Ma'ale Ma'ala Mimcha, tel qu'il est lu par Abraham de Vologin, c'est énorme. Ça veut dire que ce qui se joue en haut dépend des hommes. Bon, c'est presque impensable. C'est énorme ce qu'il est en train de nous, ce qu'il enseigne. Les choses dépendent quasiment, ça dépend des hommes. Bien entendu, il ne faut pas se tromper. Ça dépend des actions des hommes parce qu'Hachem a décidé que c'est comme ça qu'il voulait que le monde fonctionne. Et à tout instant, il peut nous enlever la... il n'a même pas besoin de l'enlever. Il peut ne pas nous donner la vie dans la minute qui suit, dans les secondes qui suivent, et c'est terminé. Mais tant qu'il nous donne de la vie, il nous donne aussi des mitzvot, et il nous dit, voilà, tu peux faire des gestes qui construisent le monde. De même qu'aujourd'hui on a compris, par exemple, grâce à l'écologie, où je comprends très bien qu'il y a des gestes qui construisent et des gestes qui détruisent le monde. Et en vérité, dans le monde spirituel, c'est comme ça aussi. Il y a des gestes qui sont construits. Mais nous, de nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce que sont ces gestes. Mais la Torah nous les dévoile, en fait. Elle nous dit, voilà, ces gestes-là sont des gestes qui construisent le monde spirituel aussi. Et ça a un impact sur le monde d'en bas, par le truchement du monde d'en haut. C'est-à-dire, puisque je modifie le monde d'en haut et que c'est le monde d'en haut qui envoie l'énergie dans celui-ci, il envoie un certain type d'énergie et il l'envoie de cette manière-là, ou à ces gens-là, ou à ce moment-là, ou de cette forme-là. Hachem envoie la lumière, il envoie. Les Bnei Israël parlent beaucoup de la notion de pluie, parce que Eretz Israël, c'est un pays qui a rien par lui-même, tout vient du ciel. Donc, entre autres, le prototype de ce qui vient du ciel, c'est l'eau, c'est la pluie. Eh bien, tout le régime des pluies, si vous voulez, dépend de notre conduite. Les Bnei Israël sont responsables de la pluie. On va dire, c'est débile, c'est fou. Mais c'est pas complètement fou. Même de façon matérielle, on sait aussi qu'il y a un impact. Aujourd'hui, on sait, il y a un impact sur le climat, donc il y a un impact sur les pluies. S'il y a un impact sur le climat de ce que nous faisons, il y a obligatoirement un impact sur les pluies. Les pluies, c'est un élément du climat. Mais c'est pas de ça que parle la Torah. Il faut juste se souvenir, c'est une leçon qu'a donnée le prophète Sraïm. Le prophète Sraïm a dit que tous les dévoilements qui existent aujourd'hui, des dévoilements des connaissances, tout ça c'est pour nous aider dans notre émouna. C'est pour nous aider dans notre confiance en Hachem. Parce que, si vous voulez, avant quand on disait il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, aujourd'hui c'est n'importe qui comprend. Tu vois rien du tout toi, mais tu es vu, tu es entendu, tu es espionné de tous les côtés, sans que tu ne vois rien du tout. Alors c'est bien sûr pas de cet œil-là qu'on parle, mais simplement l'idée, se familiariser avec l'idée de « je suis vu » ou l'idée qu'il y a un impact de chacun de mes gestes, même de chacune de mes paroles, je sais aujourd'hui, on sait aujourd'hui très clairement que tout ce que je suis en train de dire et tous les gestes que je suis en train de faire s'inscrivent sur les poteaux de la maison. Ça s'inscrit sur les murs. Chaque mot, chaque onde vient et s'inscrit sur les murs. Il y a un impact. Vous ne voyez pas, mais moi non plus, mais il y a un impact. Et de savoir cela, si vous voulez, ça... Je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est... Quand tu as compris ça, tu te dis, mais quand la Gemara... Vous savez bien que la Gemara, elle dit que... Au ciel, on juge exactement sur le même modèle que les tribunaux qu'on a sur Terre, c'est-à-dire avec un système de témoignage. La Gemara demande quels sont les témoins. Quels sont par exemple les témoins de ce que j'ai fait quand j'étais tout seul dans la pièce. Il n'y a pas de témoins, c'est-à-dire la pièce était fermée, il n'y a pas de fenêtre, j'étais tout seul. La Gemara elle dit, c'est les poteaux de ta maison qui vont témoigner. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, encore, on pouvait penser, c'est joli, c'est bien. Aujourd'hui, c'est trivial. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, s'inscrit sur les poteaux de ta maison. Ah, on ne sait pas le lire, non, mais Hachem, il saura le lire, il peut le lire. Un tribunal d'en haut peut le lire. Mais c'est inscrit, c'est évident. On n'a pas d'effort à faire. Le prophète Israël dit, nous on est tellement faible en Emouna qu'on avait besoin de cette courte échelle, en quelque sorte, de cette aide-là. C'est, toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est pas que, c'est, encore une fois, c'est pas de ça qu'on parle. Mais ça ne nous est pas du tout étranger. Que ce soit l'impact sur les murs, que ce soit l'œil qui voit le système de tout est entendu, etc. Tout s'entend, tout s'inscrit. Tout ça, c'est aujourd'hui, c'est trivial, si vous voulez. À notre niveau, dans le monde dans lequel nous sommes, on le sait. Vous me direz, il y a des gens qui ne savent pas. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas. Alors, mais si on veut, si on s'interroge sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, plus exactement, on peut chercher dans Chazal ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ne m'est pas étranger. Rien de tout cela ne m'est étranger. Je le vis, je le sais, je sais que ces choses-là existent. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, je me demandais quand on parle de deux mondes.
Deux mondes.
Deux mondes.
Oui.
Le monde en haut et le monde en bas. En fait, c'est quelque chose qui peut nous interpeller dans le sens où on ne comprend pas grand-chose. Bon, le monde en bas, c'est pas.
Même dans le monde en bas, franchement.
On peut imaginer qu'on comprend, mais le monde en haut, bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi la représentation de deux mondes qu'il y a en nous-mêmes, c'est-à-dire deux aspects qu'il y a en nous-mêmes, c'est-à-dire l'aspect matériel et l'aspect spirituel, et que le fait de faire tout un ensemble de gestes et d'actes influe sur donc, cet aspect spirituel qui lui-même va donc ensuite, par retour, modifier notre comportement matériel. C'est deux mondes qu'il y a en nous.
Oui. Ce frère Achinour, il dit que quand on fait les mitzvot, même si c'est les mitzvot, on agit sur le monde, mais c'est réflexif. C'est-à-dire, nous sommes modifiés par ce que nous faisons. Alors ça transite probablement par un autre monde en nous. C'est pas obligatoire que quand je mange du korban pessah en ne cassant pas les os pour sucer la moelle, parce qu'il y a une halakha qui dit que je dois pas le faire, alors le finour il dit, voilà, on est agi en retour. Ça veut dire que quelque part, puisque ça a à voir avec la notion d'unité, puisque ça proclame l'unité d'Hachem, ce Korban Pessah, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de 1, 2, en cassant l'os, bien, cette unité-là, de par mon obéissance à cette loi, cette unité, l'idée que je me fais de l'unité, ou l'unité aussi, l'unité en moi, elle est renforcée par ce geste que j'ai fait. C'est-à-dire, spirituellement, je suis changé, et du coup, puisque spirituellement je suis changé, alors physiquement aussi, on sait très bien que ça correspond. Donc, par ce biais-là, je suis transformé. Et donc, ça correspond bien à deux. Bon, je fais des gestes matériels. Et ces gestes matériels, parce que c'est une mitzvah, et parce que c'est chargé de sens, Hachem a fait en sorte que cette mitzvah-là me revient ça, une espèce d'effet boomerang en quelque sorte, mais spirituellement, puis ensuite ça descend sur le matériel aussi. Si c'est de ça que vous voulez parler. Il y a quelque chose ?
Pourquoi faire appel obligatoirement dans ces cas-là à un autre monde ? À mesure où on est dans le monde.
Parce qu'on sait qu'on a, il y a un autre monde, il y a un monde du salaire.
Oui, mais pourquoi ici en faire, y faire référence ? Comme si ici, le fait de. On aurait besoin quand même de l'action de cet autre monde pour valider le changement. Opère le respect ou la compréhension d'une mitzvah.
Parce que c'est pas tellement évident que, qu'il y aura un impact si on ne peut pas transiter par quelque chose qui nous dépasse matériellement. Il n'y a aucune importance que vous fassiez la shrita sur la gorge ou sur le ou sur la nuque. Enfin, la shrita dure par derrière ou par devant, change rien. Matériellement, l'animal il meurt de la même manière.
D'une autre façon, posée différemment, je reprends le parallèle que vous faisiez avec, avec les tfilin et les répercussions que cela a dans le monde d'en haut. Ici, on n'a pas de. Je suppose, je ne connais rien. Donc, je suppose qu'on n'a pas pu, à dire, quelque part, valider cette relation et cette interconnexion. Donc, ici, si on n'a pas pu la valider, comment sortir du doute que, en définitive, et c'est un peu humain, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre. Les raisons d'un commandement, ceux qui y réfléchissent obligatoirement essaient de trouver une raison. C'est humain, ça.
Mm-hmm. Mais ça n'a rien. La grandeur de ce que les Israéliens ont fait, c'est de te dire on te fait confiance, on fait ce que tu dis de faire. Et par ailleurs, on veut comprendre. Mais ce n'est pas une condition pour faire. Ce sont deux choses distinctes. Si vous voulez, je fais les choses parce que j'ai confiance en celui qui m'a demandé de les faire. Et par ailleurs, il me dit aussi, mais je ne veux pas que tu meurs idiot, quoi. Alors travaille. Travaille pour comprendre.
Ici, comment je comprends ce que vous dites, c'est que c'est à l'intérieur de ce Benassé Benishma que si nous arrivons à comprendre, là aussi c'est comme une forme de récompense.
Oui, c'est même plus que ça si vous voulez, parce que si je comprends, je pourrais faire mieux. D'accord ? Je vais améliorer mon faire aussi si je comprends. Donc je fais comme on m'a dit de faire, mais à la limite, quand quelqu'un étudie une sugya, il étudie un sujet, il comprend le sujet, il y a des choses que la Torah ne l'oblige pas à faire, mais que lui il comprend. Ça ressort du texte que j'ai étudié, que c'est comme ça qu'il faut faire, alors je vais faire comme ça. Si c'est pas contraire à la halakha, je vais faire comme ça.
Différemment exprimé. S'il n'y a pas une aide.
Bon, s'il n'y a pas
L'homme il essaie de.
Pourquoi il fait
pour ensuite pouvoir comprendre.
Non. Je ne suis pas d'accord avec le pouvoir comprendre. C'est pas pour pouvoir comprendre.
Non, oui, pas.
C'est pas je vais faire sans comprendre et grâce au fait que j'ai fait, je vais comprendre.
Par acceptation et par émouna.
Ça, je fais. Je fais par émouna, par confiance. Voilà, point barre.
Maintenant, ensuite, il dit.
Nassé. Ça, c'est le premier Nassé. Après, Nishma.
Et si Nishma.
Si Nishma. Nishma, ça veut dire. Donc, on va entendre.
Ici, il va comprendre mieux
Oui, ben, comprends.
Mais ça sera parce qu'il a eu un coup de pouce. C'est pas par lui-même.
Non, c'est par lui-même. C'est évidemment, on a toujours besoin d'un coup de pouce. Mais pour faire bien, on a aussi besoin d'un coup de pouce. Le paradoxe, c'est que c'est l'homme fait. Mais qu'est-ce que je fais? Il suffit que j'ai un peu mal à l'épaule et je ne peux pas mettre de tefilin. Il faut que Hachem me maintienne en bonne forme. Je ne fasse pas de bêtises, mais il faut une siyata lishmaya pour que je n'ai pas une arthrite ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait que je ne peux pas bouger la main, le bras, et je ne peux pas mettre les tefilin. Il ne faut pas grand-chose pour ça. Et donc même pour l'action, il faut pouvoir le faire. J'ai décidé de jeûner Yom Kippour, mais qu'est-ce que je peux faire si je suis si quelqu'un est, je sais pas moi, diabétique ou ça, mais il faut bien qu'il mange et il doit manger. Yom Kippour, bon, ça va. Son Yom Kippour à lui se fait en mangeant. Il n'a pas le droit de ne pas manger. Alors c'est sûr que dans notre idée, on pense que Yom Kippour il faut jeûner. Oui, c'est juste, il faut jeûner. Il y a des gens qui doivent manger. Et à partir du moment où la halakha, elle dit que dans cette circonstance, il faut manger, ben voilà, j'obéis à Hachem en mangeant. C'est pas que je fais pas ce qu'il faut, mais je suis empêché. Non. La halakha dit que je dois manger. Alors, c'est pas un confort, j'ai un petit peu, une petite faim, je vais manger. On parle de quelqu'un qui est diabétique ou comme ça, qui a besoin de manger, pour des raisons médicales, il ne peut pas se permettre de ne pas manger. Bon, il doit manger. Il faut qu'il regarde comment il peut manger, qu'est-ce qu'il doit manger, etc. Quel brachot il faut faire une bracha, est-ce qu'il va faire Birkat Amazon, est-ce qu'il doit dire aller Viavo dans le Birkat Amazon. Il n'est pas sorti de l'auberge, il y a toujours encore à travailler. Donc, quel Birkat Amazon on fait à Yom Kippour quand on doit manger? Si l'Ibn Israël avait dit Nishma venaase, au lieu de dire Naase venishma, alors on aurait entendu que au début ils veulent entendre la parole telle qu'elle s'entend ici, et après que les paroles se soient entendues dans ce monde-ci, alors ils vont accomplir et ils vont faire tout ce qu'on leur a demandé de faire. De cette manière-là, leur rapport à la parole divine sera uniquement un rapport de mitzvot, si vous voulez. Cette parole divine, ils ne l'auraient entendue que dans sa version pratique, quoi. La version dans ce monde-ci pour savoir quoi faire et comment faire. Tandis que quand on fait, on règle le problème du faire, et qu'après on entend, mais on entend, c'est pas un entend pour faire, puisque j'ai déjà fait, enfin je fais déjà. Donc c'est une façon d'accéder à la parole divine dans son état le plus élevé. À ce moment-là, j'ai la parole divine en bouche, et non pas la parole divine telle qu'elle se dit dans ce monde-ci, en tant que concrètement pour faire les choses. C'est plus comme ça. On est branché sur une parole divine qui n'aurait même pas pris la peine de se dire sous la forme de ce monde-ci. Puisque la partie de... Pour ce qu'il faut faire, je l'ai déjà fait. Je le fais déjà indépendamment du dibou. En d'autres termes, pour pouvoir faire, il faut bien qu'il y ait un premier dibou, sinon je ne sais pas quoi faire. C'est donc pas de ce dibou-là qu'on parle. Quand on dit « Naase Venishma », pour Naase, il y a un premier nishma, hein, pour savoir, si j'ai pas entendu qu'il faut mettre les tefilin, je vais pas les mettre. Si je sais pas comment on fabrique les tefilin, je vais pas les faire, je vais pas les mettre. Donc il faut bien d'abord entendre un premier dibour qui me dit ce qu'il faut faire. Et maintenant je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Et que celui qui m'a dit de le faire, je lui fais confiance. Pourquoi je lui fais confiance? Parce que comme il me dit lui-même, tu me fais, peux me faire confiance, je t'ai sorti d'Égypte, par exemple. Tu peux me faire confiance, je t'ai pris en charge. C'est ce que Hachem dit, vous pouvez me faire confiance. Une des explications, quand Hachem dit « Anochi Hachem Elokecha, Hachem Otseticha Meretz Mitzrayim », qu'est-ce qu'il dit quand il dit « Hachem, je suis Hachem » Alors, ça veut dire quoi? Tu peux me faire confiance. Pourquoi? Je t'ai sorti d'Égypte. C'est-à-dire que la confiance, elle doit se baser sur quelque chose. Sinon, c'est de l'imbécilité. Nous mettons tous les jours en garde nos enfants de ne pas faire confiance à cette personne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et qui te propose d'aller faire un tour ou de manger ces bonbons-là, ou etc. Pas de confiance. Il ne faut pas faire confiance à les gens que tu ne connais pas. Même les gens qu'on connaît. Il ne faut pas faire confiance comme ça. Donc, Hachem lui-même dit, ne faites pas confiance à tort et à travers. Faites-moi confiance. Mais je vous donne les raisons pour lesquelles vous pouvez me faire confiance. Et Hachem a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves et je les prendrai en charge et les sortirai d'Égypte. C'est comme ça qu'on construira la confiance. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire confiance sans rien du tout. Pourquoi un enfant fait confiance à sa mère au départ? Parce qu'elle l'a porté pendant 9 mois. Et pourquoi il ferait confiance à son père? Il n'a pas de raison de faire confiance à son père. Il fera confiance à son père s'il voit que la mère fait confiance à son père, par transitivité, ou bien parce qu'il aura expérimenté que son père s'est occupé de lui, etc. Donc il va construire une confiance ultérieure en son père. Mais au départ, il n'a pas tellement de raison de faire confiance à son père, il ne le connaît pas. Concrètement, le père ne lui a rien donné. L'histoire de gamètes, je ne sais pas si ça joue. Mais tout, même l'épigénèse, etc., tout ça, ça s'est fait dans le corps de la mère. Mais les Avot, justement, ce qu'il est reproché à Abraham Avinu, c'est que comme il n'a pas fait confiance, il a demandé Bama Eda, Hachem a dit, alors tes enfants seront esclaves en Égypte et je vais les prendre. C'est-à-dire, puisque tu ne me fais pas confiance du seul fait que je te parle, pas complètement, alors on va construire la confiance sur le mode habituel, c'est-à-dire prise en charge, et puis ensuite, construction automatiquement de la confiance. Et les Avot, comme vous dites, vous avez raison, ils ont eu confiance partiellement, et ils sont confus. Bon, Avraham Avinu, il a eu confiance, lui qui est l'inventeur de la Emouna, il y avait une faille dans le... Et ensuite, ils ont fait confiance, Yitzhak, parce qu'il a vu chez son père, chez sa mère, et il a vu lui-même, Hachem lui a manifesté, s'est manifesté à lui. Donner des brachot, il a réussi, etc. Il voit ce qui lui arrive. Et même Yaakov Avinu, il dit à Hachem, il dit, je fais un deal avec toi. Il dit, si tu t'occupes de moi, etc., alors je te donnerai ma aser, etc. Alors on va s'arrêter là parce que on n'aura pas fini.
Aujourd'hui, Hachem ne se manifeste pas, c'est parce que nous ne savons pas lui faire confiance.
Non, mais aujourd'hui, nous, quand on. Nous faisons confiance toujours à cause de la sortie d'Égypte.
Justement, on se réfère toujours à l'œuvre, au modèle, et nous.
C'est pour ça, c'est ça que le Rav Israël disait, nous, notre Emouna, elle est un peu faiblarde. Donc elle a besoin de chizouk, elle a besoin d'être fortifiée. Donc Hachem nous aide à lui faire confiance. En vérité, le travail, il y a une mitzvah d'Emouna. Ça consiste, la mitzvah de faire confiance à Hachem, de construire la confiance en Hachem, c'est-à-dire de faire mousser pour nous-mêmes toutes les situations qui renforcent les raisons, qui renforce, qui nous donne des raisons supplémentaires de faire confiance à Hachem. Donc il y a un travail de lecture de notre vie, de lecture des événements, dans le sens de construire la confiance. C'est-à-dire, c'est un travail qu'il faut faire.
Parce que, avec tout ce background que nous avons aujourd'hui, on est faiblard à tel point que on ne sait pas entendre.
Oui, mais parce que c'est les fautes, nos fautes qui sont comme... C'est nos fautes qui ont fabriqué un écran, fabriquent des écrans qui font qu'on n'arrive pas à voir.
Ça se pacifie.
Oui. C'est nous qui opacifions les choses. Parce qu'on fait trop de fautes, quoi, probablement. On n'est pas assez proche d'Hachem.
Mais le paradoxe, c'est que fort justement tous ces enseignements.
On devrait faire confiance.
Oui. C'est un peu paradoxal.
Vous avez raison, je suis d'accord. Mais... Oui, on devrait. Peut-être faisons-le.
Quand on dit Olam Abba, ça veut dire le monde du Père ?
Le monde qui vient, non pas Abba. Abba, le monde qui vient. Bien. Alors je souhaite à tous ceux que je ne verrai pas à Shavuot, Chag Sameach, bonne réception de la Torah. Sans commentaire, pour, comme vous savez déjà ce que je vais dire, donc j'ai besoin de le dire.
Tu me fais votre recette.
Pardon ? Ah, c'est la clé rouge est à moi.
Hein ?
La clé rouge, là, elle est dedans ?
Oui.
Elle est à moi.